C'est en un an.
C'est vrai, depuis que cette épidémie a commencé, nous avons enregistré plus de 140 000 cas et plus de 3 000 décès. Ça, c'est ce que nous connaissons. Mais si vous faites l'investigation, des enquêtes approfondies au niveau des ménages, on peut avoir des chiffres très, très élevés par rapport à ce que nous vous présentons. Donc, la rougeole est tentée de tuer plus que même la maladie à virus Ebola.
Face à cette épidémie qui tue beaucoup de gens, comment le ministère de la Santé au Congo et la direction des maladies infectieuses organisent-ils la riposte contre la rougeole en RDC?
Je pense que c'est une priorité, même en suivant les discours du président, même l'initiative qu'il a prise de relancer les activités de vaccination. Donc, il y a une série d'activités que nous organisons. Nous avons mis en place un comité de coordination qui essaie de suivre toutes les activités.
Quelle stratégie employez-vous en cas de faiblesse de la couverture vaccinale?
Nous organisons à ce moment ici des vaccinations de routine dans quelques zones de santé et nous comptons mettre en place ce qu'on appelle les campagnes de vaccination en bloc.
Combien de blocs y a-t-il?
Il y a premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, il y aura des parties 3-1, 3-2. Le premier bloc, nous allons organiser, je pense, du 8 au 12 octobre, qui va intéresser les provinces de l'Ituri, Kasaï, Lomami, Kivu, Sankuru, Tanganyika et Tchopo. Et puis nous allons passer au deuxième bloc qui sera organisé au mois de décembre. Et puis le troisième bloc au mois de février. Et le dernier bloc, ça sera au mois d'avril l'année 2020.
En attendant, comment s'organise la prise en charge?
Entre-temps, les cas sont pris en charge. On organise la prise en charge avec l'appui des MSF et les autres activités de la surveillance. Nous sommes en train de mettre en place. Et puis, il y a un plan pour renforcer la vaccination des routines, ce qu'on appelle le plan Machako, qui est mis en marche pour attaquer les zones de santé prioritaires.
L'OMS et l'UNICEF avaient déjà annoncé que pour endiguer la contagion actuelle, ils avaient promis lancer une vaste campagne de vaccination à travers le pays à la mi-avril. Où en est-on avec cette campagne promise?
On a connu des petits problèmes, comme vous savez. L'épidémie d'Ebola essaie un peu de retarder certaines actions. On a eu des petits problèmes par rapport à la disponibilité de vaccins. Et c'est pourquoi le président de la République lui-même a mis les choses en main.
Quelles actions concrètes le chef de l'État a-t-il entreprises?
Il a convoqué une grande réunion pour mobiliser les ressources nécessaires et essayer de veiller tous les partenaires internationaux pour que nous puissions arriver à bout. Les séries des activités, c'est ce qu'on appelle les campagnes de vaccination, de suivi qu'on fera en quatre blocs. Et puis, il y a ce qu'on appelle le renforcement de la vaccination de routine sur le plan Machako. Et tout de suite, avec les moyens que le gouvernement a déjà, on va organiser la vaccination dans 160 zones de santé. Entre-temps, on est en train de mobiliser les ressources supplémentaires pour atteindre toutes les zones de santé, pour renforcer la couverture vaccinale et organiser les campagnes à quatre blocs.
On a un auditeur, Kevin Kaninda, qui s'inquiète. Il se dit qu'il y a des parents certainement qui sont réticents à la vaccination. Comment est-ce que vous vous y prenez pour convaincre les parents qui refusent que leurs enfants ne soient vaccinés?
D'une façon générale, la majorité du Congolais, parce qu'on sait depuis qu'avant, tout le monde connaît les bienfaits du vaccin. Ce n'est pas comme les vaccins d'Ebola ou d'autres choses, parce que la rougeole a commencé depuis des années, et on a vu. Et c'est vrai, la majorité de la population amène les enfants pour la vaccination. Mais il faut reconnaître quand même, il y a des groupes, déjà, même on a identifié certains sectes, certaines croyances qui refusent à ce que d'amener les enfants à la vaccination. Il y a des groupes, ça, on voit au niveau du Nord Katanga, la plus des Pygmées. Il y a aussi les sectes comme les Kitawara qui refusent à ce que ses adeptes, les enfants des adeptes soient vaccinés. Mais on essaie de contourner cela en essayant d'organiser la sensibilisation. Peut-être essayer de discuter de temps en temps avec les chefs religieux. Et il y a des stratégies parfois adaptées à chaque situation.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Ces interventions auprès des chefs religieux récalcitrants ou auprès des chefs de village réticents produisent-elles des résultats escomptés?
Il y a des chefs qui disent parfois, donc vous venez nous vacciner dans l'autre village, ainsi de suite. Ou bien il y a des gens qui se déplacent peut-être d'un village à l'autre pour recevoir les vaccins, pour éviter la réaction des gens de la communauté. Donc il y a l'équipe de la communication qui est en marche, qui essaie de temps à autre à convaincre ces gens-là. Mais ces groupes sont déjà identifiés. Ils représentent une petite fraction de toute la population de la République démocratique du Congo.
Un autre auditeur, Alphonse Mwaki, demande si les partenaires extérieurs accompagnent la RDC dans cette brusque épreuve épidémiologique, surtout les partenaires venant des pays qui sont suffisamment impliqués dans la riposte contre la maladie.
Les partenaires habituels, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'UNICEF. Et ils reçoivent beaucoup les fonds Gavi. Ils nous aident parce que sans ces partenaires, je pense que la situation serait catastrophique. Nous sommes avec ces partenaires depuis des années. Il nous appuie dans les preuves de routine comme il nous appuie dans les campagnes de vaccination. C'est que l'apport d'aide des partenaires, c'est ce qui est important par rapport à ce que les gouvernements mobilisent pour la vaccination de routine, même pour organiser les campagnes de suivi.
Un autre auditeur, Simon Peter Kambeling, veut savoir quelles sont les mesures de riposte que peuvent prendre les personnes résidant dans des coins reculés de la ville, dans toute la RDC, pour apporter leur pierre à l'édifice dans la lutte contre la rougeole.
D'abord, il faut comprendre l'épidémiologie de la maladie comme la rougeole. Il y a l'apport dans la prévention, comme je l'ai évoqué. Il y a des gens qui peuvent nous apporter, nous soutenir dans la sensibilisation. On n'a pas notifié ça. Il y a aussi l'ignorance. À côté des gens qui résistent, il y a l'ignorance. Donc, l'appui dans la sensibilisation, c'est très important, comme les médias. Essayer de sensibiliser la population, c'est très, très important. L'autre aspect, c'est la prise en charge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas. Nous avons besoin de ressources supplémentaires pour organiser la prise en charge. Il n'y a pas de médicaments spécifiques pour traiter la rougeole, mais il y a des médicaments qu'on peut utiliser, par exemple, pour traiter les signes ou les symptômes. Donc, tout ce qui va nous amener quelque chose dans ce sens-là, des ressources, c'est très, très important pour nous pour essayer de gérer la situation.
Puisque la vaccination est très importante dans l'éradication de la rougeole et qu'il vous est déjà arrivé d'être à court de vaccins, une aide de ce côté-là ne serait pas superflue.
Le point le plus important ici, c'est aussi la vaccination. S'il y a des partenaires qui peuvent appuyer le ministère à acheter les vaccins ou bien à apporter les intrants nécessaires, appuyer à acheter les frigos, les moyens logistiques, je pense que ça sera le bienvenu pour que nous puissions arriver à contrôler cette flambée qui risque d'avoir des conséquences un peu graves par rapport à la santé de la population du Congo.
L'ONG Médecins Sans Frontières assure que cette épidémie de rougeole est la plus meurtrière que la RDC est connu depuis 2011 et 2012. Et donc l'ONG réclame une mobilisation massive de fonds et d'acteurs. Comment est-ce que cette mobilisation pourrait s'organiser?
Je pense qu'on a déjà fait un plan. Le gouvernement a financé une partie. Il y a toujours des gaps. Bon, il y a plusieurs activités. Les activités de la vaccination de routine, ça c'est le gouvernement qui prend ça en charge. Mais la vaccination de routine ne suffit pas.
Pourquoi la vaccination de routine ne suffit-elle pas?
Tant qu'il y a beaucoup de présentés par rapport à la vaccination de routine, de temps en temps, il y a rupture des stocks de vaccins, il y a les moyens logistiques qui sont limités, on a dit il y a des zones de résistance, il y a l'ignorance de la population, les faiblesses des systèmes de santé dans certains coins qui ne permettent pas à ce que les activités de vaccination puissent bien se dérouler. Ça, le gouvernement peut prendre ça. Mais de l'autre côté...
Quelle stratégie employez-vous en cas de faiblesse de la couverture vaccinale?
Si la couverture vaccinale est faible, il faut compléter par des campagnes de suivi. Des campagnes de suivi qui nécessitent beaucoup de moyens. Parce que nous devons organiser la campagne 3, 4, 5 jours dans presque toutes les zones de santé ou bien du moins dans plusieurs provinces. 3, 4 jours, ça nécessite qu'il faut avoir beaucoup de ressources. Et c'est ce que MSF est tenté de dire. Comme aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a plus de 300 zones de santé, donc on peut dire plus de la moitié des zones de santé de la République démocratique du Congo sont touchées. Et comme vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un sous-continent par rapport à l'étendue. La République démocratique du Congo aussi a une population aujourd'hui de autour de 85 millions. Tout cela nécessite à ce qu'il faut qu'il y ait des moyens supplémentaires pour arriver à renforcer la vaccination de routine et aussi à réaliser des campagnes de suivi. Ce que nous sommes en train de suivre, c'est parce qu'à un certain moment, tout ce qu'on a prévu comme des campagnes de suivi n'était pas réalisé. Et du fait qu'il y a 1000 de personnes susceptibles non vaccinées, il faut s'attendre à quelques temps et il peut y avoir facilement l'explosion d'une épidémie à rougeole.
Et vous pensez que maintenant vous avez les moyens de tout organiser ou de tout suivre?
Nous avons des programmes, nous avons des plans stratégiques, mais le grand problème c'est les financements. Parfois. Le grand problème, c'est la disponibilité des vaccins. Le grand problème, comme je viens d'évoquer, les pays sont trop vastes. Il y a des zones d'accessibilité difficile. Ça demande des moyens logistiques supplémentaires. C'est vrai, le gouvernement est tenté de mobiliser, mais vous savez, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de priorités. Nous avons beaucoup de priorités.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir. un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Docteur, la santé devrait quand même figurer parmi les premières priorités.
Le gouvernement, avec les moyens et les budgets qu'il a, il essaie de donner le maximum pour arriver à maîtriser plusieurs épidémies. Mais ces moyens sont limités parce que aujourd'hui, par exemple, nous faisons face à l'épidémie des maladies à virus Ebola, rougeole, mais à côté de rougeole, il y a aussi choléra. Sans oublier les paludismes, ce qui tue aussi. Parce que depuis le début de l'année, les paludismes ont tué aussi plus de 10 000 personnes, plus que même la rougeole aussi. Tout ça, ça constitue des priorités. Et que le gouvernement doit mobiliser l'argent, essayer de riposter à toutes ces épidémies. Par rapport à la rougeole, je vous ai dit qu'il y a les gouvernements qui mobilisent les moyens pour assurer la vaccination des routines. Mais de l'autre côté, les moyens sont limités parce que nous devons aussi organiser les campagnes de suivi pour renforcer l'immunité. Parce qu'avec la vaccination des routines, il est difficile d'atteindre la couverture au-delà de 80% de tous les enfants de moins de 5 ans. Et c'est pourquoi on organise de temps en temps des campagnes de suivi. Et ces campagnes de suivi demandent beaucoup de ressources. C'est pourquoi on tend la main à l'extérieur aux partenaires qui peuvent nous aider à ce que nous puissions arriver à organiser les campagnes de suivi et renforcer aussi la vaccination des routines.
Avec tous ces défis que vous avez à relever, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut penser que le combat contre la rougeole en RDC est une lutte perdue d'avance?
Ce n'est pas perdu à l'avance avec ce que nous avons planifié. Comme on vous dit, d'ici le mois d'avril 2020, je pense qu'on sera capable d'organiser, de mettre en œuvre tout ce qu'on a planifié. L'année prochaine, je pense, à partir de la fin du premier semestre, la situation de rougeole serait contrôlée à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une bataille perdue, mais on était surpris parce qu'il y avait d'autres priorités. Il y avait l'épidémie des maladies à virus Ebola. Et avant cela, nous avons connu aussi l'épidémie de choléra. C'est ce qui a attiré l'attention des personnes de l'autre côté. Mais sinon, les gouvernements, les ministères de la Santé publique et la direction nous sont mobilisés et aussi avec les programmes de vaccination à mettre fin rapidement à cette épidémie de la rougeole en République démocratique du Congo.
En réponse à la récente flambée de rougeole, des appels ont été lancés dans plusieurs pays pour rendre la vaccination obligatoire. Est-ce que c'est le cas en RDC? Est-ce que la vaccination contre la rougeole est obligatoire ou facultative?
Je pense qu'il y a une loi qui a été promulguée l'année passée en disant voilà, la vaccination devient obligatoire en République démocratique du Congo. Donc, tout celui qui s'interfère, que ce soit les parents, les proches, qui refusent d'amener l'enfant afin que l'enfant puisse bénéficier du vaccin, donc c'est une infraction condamnable aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous assurer, que la vaccination, pas seulement la rougeole, que ce soit le vaccin contre la poliomyélite et les autres, ça devient aujourd'hui en République démocratique du Congo une activité obligatoire.
Nous savons que la rougeole peut aussi bien attaquer les grandes personnes, les jeunes adultes, disons, que les petits enfants. Et cette épidémie de rougeole que nous observons en RDC, quelles sont les personnes les plus atteintes? Est-ce que juste les petits enfants ou les jeunes adultes?
Les jeunes adultes, comme on disait, les jeunes adultes qui n'ont pas été vaccinés au moment où ils étaient isolés. Mais les grandes personnes, c'est rare. On enregistre rarement des cas isolés, peut-être des femmes enceintes, tout ça. Sinon, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les jeunes aussi de moins de 15 ans qui développent la maladie.
Alphonse Boaki veut savoir si le vaccin contre la rougeole est vraiment efficace.
Le vaccin contre la rougeole est efficace. Mais ce vaccin aussi, il est très exigeant. Ça, il faut le dire. Il est exigeant parce qu'il faut conserver dans des températures exigées.
Si vous ne respectez pas ces exigences, qu'arriverait-il?
Si vous ne respectez pas cela, on peut arriver à vacciner quelqu'un des produits qui ne sont pas de bonne qualité. C'est comme ça qu'on essaie de suivre la qualité du vaccin depuis les dépôts centrales de dosage jusqu'au moment où on va vacciner l'enfant au niveau de l'aire de santé. Donc, le vaccin est efficace si environ plus de 80% des enfants des mêmes communautés sont vaccinés et lorsqu'il y a une épidémie, il est difficile à ce que l'épidémie puisse se propager.
On a une question qui vient de Mbujimayi. La voici.
Donc, Jonas Kinda, à partir de Mbujimayi RDC. Je veux demander au docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre les fléaux, cette épidémie de rougeole Parce qu'il y a de ces parents-là qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Est-ce, il y a un autre moyen, une autre méthode pour qu'on puisse vaincre cette épidémie, si c'est possible, qu'ils puissent nous donner ça.
La stratégie, comme on dit, on commence toujours à sensibiliser les parents et les gens qui font la sensibilisation, ils ont des stratégies. Et au finish, on arrive toujours à les convaincre et on arrive toujours à amener les enfants à être vaccinés. C'est vrai, il peut y avoir des cas isolés, mais ces cas isolés, s'il y a un cas sur 1000 enfants ou bien 10 cas sur 10 000 enfants, cela ne peut pas être à l'origine de l'épidémie. Un enfant, des enfants peuvent faire des cas isolés, ça se limite à ce niveau-là. Même s'il y a la résistance, mais cette résistance des parents représente les fines proportions de tous les enfants en République démocratique du Congo.
À quel danger fait face un enfant quand ses parents refusent de le faire vacciner?
Si cet enfant attrape la rougeole, il peut mourir cet enfant. S'il ne meurt pas, l'enfant peut rester avec des handicaps du fait que les parents n'ont pas voulu amener l'enfant là où les gens sont en train de vacciner.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peur ou vous craignez que l'épidémie ne se répande ou ne s'étende à d'autres provinces et à d'autres personnes?
Normalement, l'épidémie est presque dans tous les pays. Et c'est vrai, il y a des zones de santé qui n'ont pas encore notifié, mais si vous analysez la situation de la rougeole, c'est presque toutes les provinces ont notifié le cas de rougeole. Heureusement, il y a des provinces, il y a des zones de santé où la couverture est bonne. Et il y a aussi des provinces où il n'y a pas de décès du fait qu'il y a des enfants qui ont bénéficié de soins un peu particuliers. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas vraiment peur de la propagation de la rougeole en dehors de ces zones-là. Parce que nous avons fait l'analyse. Ce sont des zones de santé qui présentent des couvertures vaccinales très faibles et qui aujourd'hui développent des épidémies ou des flambées de rougeole.
Comment est-ce que les populations congolaises peuvent s'activer ou peuvent activement s'impliquer dans le combat contre la rougeole?
Bon, première activation, c'est accepter d'amener tous les enfants là où on est tenté de vacciner, d'accepter le vaccin, de se mettre en tête que le vaccin est là pour protéger les enfants. Le vaccin est là pour le bien de la communauté. Le vaccin est là pour éviter les décès au niveau de la communauté. Et lorsqu'il y a un enfant qu'on le cache, tous les responsables de la communauté amènent l'enfant parce que la vaccination est gratuite. On ne demande pas l'argent pour recevoir le vaccin. Le vaccin est gratuit. Il faut que tout le monde puisse amener les enfants à ce que les enfants soient vaccinés. Il faut aussi signaler que la vaccination est obligatoire en République démocratique du Congo.
Quelle aide pratique d'autres partenaires peuvent vous apporter dans cette lutte contre la rougeole?
Demandons l'appui de tous les partenaires, tous ceux qui nous attendent, les ONG au niveau national et international, qui viennent s'associer à nous pour que nous puissions sauver les vies de nos enfants.
Merci beaucoup, Dr Aouna Aaron, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Merci beaucoup, madame.
C'était le Dr Aaron Aaruna, directeur général de la Direction de surveillance épidémiologique en RDC. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, l'eczéma, maladie de la peau très fréquente. Elle provoque d'intenses démangeaisons. Nous verrons comment la contrôler. De plus, des conseils et astuces pour faire face aux crampes musculaires. Et enfin, il pourrait y avoir un lien entre les habitudes technologiques et l'obésité. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une autre édition de Carnet de santé. Selon les experts, la modification des habitudes alimentaires du nourrisson, engendrée par le délaissement de l'allaitement maternel et l'exposition précoce aux allergènes alimentaires, sont certains facteurs qui joueraient un rôle dans l'apparition de l'eczéma en bas âge. Par contre, il n'y aurait pas de lien entre l'introduction précoce des aliments solides et l'apparition de l'eczéma chez les jeunes enfants. Imaginez ceci, vous êtes en train de faire du jogging, mais vous vous arrêtez brusquement. Pourquoi? À cause d'une crampe. Ce n'est pas très agréable. Caractérisée par une douleur intense et localisée des muscles, comme une contraction, les crampes aux jambes peuvent durer quelques secondes ou de longues minutes. Nous avons voulu savoir comment prévenir les crampes aux jambes et que faire pour s'en débarrasser. Ram Sharif, directeur chez One Life Fitness à Ballston en Virginie, nous explique.
La crampe musculaire ou spasme musculaire est essentiellement une contraction involontaire d'un seul muscle ou d'un groupe de muscles. Fondamentalement, ces groupes musculaires restent dans cette phase de contraction pendant une période prolongée, ce qui peut essentiellement entraîner un inconfort ou une certaine douleur. Généralement, c'est en raison d'un effort excessif dans le muscle, ou ce qui peut le provoquer, c'est une activité très intense comme courir, faire du sport, et si vous êtes déshydraté et vous manquez de macro et de micronutriments tels que le glycogène ou le glucide. On peut débattre du fait suivant. Je sais que lorsque vous effectuez une recherche sur le web, la plupart du temps, il est indiqué de faire de l'étirement immédiatement lorsque vous avez une crampe musculaire, quelque chose de, dans ce sens. Je voudrais respectivement être en désaccord avec cela. Je pense qu'au bout du compte, tout d'abord et avant tout, il faut arrêter toute activité physique que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, il faudrait appliquer une pression sur la zone, le groupe de muscles qui se contracte essentiellement. Lui donner le temps de se détendre et masser la zone, puis essayer de l'étirer activement. Et bien sûr, c'est réhydrater.
Les crampes aux jambes peuvent frapper à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, que vous soyez allongé ou en train de courir. Dans la majorité des cas, elles sont bénignes et disparaissent spontanément. Néanmoins, certaines crampes nécessitent un avis médical, notamment les crampes persistantes ou permanentes, les crampes diffuses ou crampes généralisées, ou les crampes à répétition. Téléphone portable, tablettes et ordinateurs portables, réseaux sociaux. La société moderne dans son ensemble est distraite comme jamais auparavant. Les scientifiques ont remarqué qu'au fur et à mesure que la technologie devient de plus en plus répandue, les gens prennent encore plus de poids également. Elizabeth Lee de VOA a les détails d'une étude à l'université Rice de Houston, au Texas, visant à déterminer s'il existe un lien entre les habitudes technologiques et l'obésité.
Avez-vous déjà passé des heures à visiter plusieurs pages sur les réseaux sociaux et vous vous demandez à un moment donné où est passé le temps? Un phénomène qui, selon le chercheur Richard Lopez, est à la base de l'obésité.
Nous constatons une augmentation significative du taux d'obésité et de l'obésité chez les enfants à peu près au même moment que l'avènement des smartphones. Il s'agit des mêmes remarques depuis le développement de la technologie en général.
Les chercheurs ont interrogé 132 personnes dont l'âge est compris entre 18 et 23 ans. Le questionnaire adresse aux participants des questions telles que « Combien de fois avez-vous été distrait par les notifications sur votre téléphone ?» Les chercheurs ont également mesuré la graisse corporelle des participants.
Nous avons remarqué que les personnes multitâches et qui utilisent fréquemment leurs appareils présentaient un risque plus élevé d'obésité et le pourcentage de graisse corporelle.
Ensuite, 72 des participants ont subi un scanner cérébral pendant qu'on leur montrait des images quelconques, y compris des aliments gras. Résultat, les gens qui utilisaient les multimédias sont plus exposés à la tentation des images de nourriture. À l'heure actuelle, les chercheurs ne savent pas si les personnes qui ont tendance à effectuer plusieurs tâches à la fois avec des appareils numériques manquent de maîtrise de soi et si cela affecte leur développement cérébral ou si les personnes présentant des schémas de développement cérébral spécifiques ont davantage tendance à effectuer plusieurs tâches à la fois avec leurs appareils.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de l'allaitement maternel. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me joindre sur Twitter @lenormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.
Voici à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons eu une interview avec le docteur Aaron Haruna, directeur général de la Direction de surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo. Ensuite, Lenore Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Sidrak Franklin qui étaient à la console. Nanit Talani était à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.